France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Françoise Claustre, l'otage du désert. Cette histoire débute en avril 1974, au Tchad. Un groupe rebelle enlève trois Européens, un Allemand et deux Français. Pris au dépourvu, les autorités françaises enchaînent les erreurs. L'Allemand est vite libéré et l'un des deux Français réussit à s'enfuir, mais l'autre Française, Françoise Claustre, reste prisonnière du désert. Et surtout, personne ne s'en préoccupe. Les négociations traînent, les rebelles prennent un nouvel otage, Pierre Galopin, un militaire français, qui sera exécuté. Puis un autre encore, l'époux de Françoise Claustre, Pierre Claustre. Cette affaire est dite d'un thriller de John le Carré. Il y est question de rançon, d'armes, de coups d'État et de services secrets. Elle implique en outre de célèbres Français comme Stéphane Hessel et Raymond Depardon. Finalement, après bien des péripéties, Françoise Claustre recouvre la liberté après plus de 1000 jours de captivité. Notre invité aujourd'hui, le journaliste et écrivain Antoine Glaser, spécialiste des relations franco-africaines auxquelles il a consacré de nombreux livres. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Rémi Carayol, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Ronxin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Il est 20h passé de 4 minutes, ce mercredi 10 septembre 1975, lorsqu'apparaît sur le petit écran une femme visiblement exténuée. Celles et ceux qui regardent le JT TF1 ce soir-là, et ils sont nombreux, comme chaque jour, ne peuvent pas rester indifférents face à sa détresse. Elle s'appelle Françoise Claustre, elle a 37 ans, un accent du Nord hérité de ses origines luxembourgeoises, et elle semble surtout être au bout du rouleau. Elle est assise là, en tailleur, à même le sol. Chemise beige, sans manches, pantalon kaki, une montre au poignet et le cheveu coiffé en queue de cheval. Parler devant la caméra n'est pas simple. Les larmes lui montent aux yeux et on la voit sans cesse triturer un mouchoir avec ses mains. Derrière elle, une palissade et à ses côtés, un homme élancé, assis sur un tabouret, gêné de toute évidence. Il semble ne pas savoir quoi faire de l'arme qu'il tient entre ses jambes, un vieux fusil hors d'âge. Oui, Françoise Claustre est bel et bien une otage. Cela fait 16 mois qu'elle est prisonnière du désert tchadien, le Tibesti, une immensité de dunes de sable et de montagnes rocailleuses. 16 mois qu'elle est détenue par un groupe rebelle, Frelinga, le Front de Libération Nationale du Tchad. Et pourtant, en France, qui connaît son histoire? Ce 10 septembre, devant la caméra d'un jeune reporter appelé à devenir célèbre, un certain Raymond Depardon, et pour la première fois depuis son enlèvement, Françoise Claustre raconte son quotidien, sa colère aussi.
J'attends, j'étouffe tout ce que je pense, contre tous ceux qui ne s'occupent pas de moi. J'essaie de me dire que j'ai la vie, que je la garde, que c'est déjà beaucoup, c'est tout. De tous ceux qui m'abandonnent, j'essaie de cacher mon amertume, ma rancune, de l'oublier. Souvent, je pense à mon mari, à ma famille. Ça me fait tellement mal que je n'essaie de pas y penser.
Durant de longues minutes, Françoise Claustre étale ses tourments. Elle parle de ses journées remplies d'ennuis, de ses repas, du riz, toujours du riz, de ses fêtes de Noël qui approchent et qu'elle passera seule, une nouvelle fois. Et enfin, elle dénonce l'inaction des autorités françaises. Lamentable, dit-elle. Le reportage s'achève sur l'ultimatum lancé par les ravisseurs. Si la France ne répond pas à leurs exigences, la Française sera exécutée le 23 septembre. Autrement dit, dans moins de 2 semaines. L'effet immédiat. Les Français tombent des nues. Ils découvrent qu'une des leurs est retenue depuis plus d'un an et ils comprennent que le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour la sortir de là. Avec ce reportage, c'est Depardon qui le dira des années plus tard, l'affaire Claustre est née. Dès lors, la France est pendue au sort de cet archéologue. Le compte à rebours est lancé. Il ne se passe pas un jour sans que son cas ne soit évoqué à la télé ou à la radio. Jadis oublié, Françoise Claustre devient une cause nationale. Alors les journalistes débarquent en nombre dans le Tibesti. Quelques heures avant la fin de l'ultimatum, une équipe d'Antenne 2 est sur place.
Ces dernières 24 heures sont intenables. Si l'émissaire français n'arrive pas à temps, vous l'avez entendu, l'archéologue française est perdue. Cette nuit-là, il y a un mariage dans la vallée de Modra et Françoise Claustre, qui se trouve à 100 mètres de nous, là peut-être dans le fond de cette vallée, dans l'une de ces cases, au fond de cette vallée, où il était impossible de s'évader. Françoise Claustre aura entendu toute la nuit les you-you joyeux, les coups de feu, et puis sur son transistor, un épouvantable compte à rebours. Guettant l'arrivée d'Hirondelle, tout fait silence dans la veillée. Et puis enfin, c'est l'aube. On va sursauter au moindre bruit. Les heures et les minutes s'égrènent jusqu'à 10 heures. Et enfin, le miracle.
Je vous annonce une bonne nouvelle. La date est prolongée de 48 heures.
Ouf ! En France, c'est le soulagement. Françoise Claustre ne sera pas exécutée. Mais pour elle, c'est loin d'être la fin du cauchemar. Elle ne le sait pas à ce moment-là. D'ailleurs, personne ne le sait. Mais elle restera prisonnière du désert et d'Issenabré pendant près d'un an et demi encore. Issenabré, tiens, il est temps d'en parler. C'est lui qu'on vient d'entendre à l'instant. L'homme qui vient d'annoncer la prolongation de l'ultimatum. Parce que c'est lui, le geôlier de Claustre. Celui qui l'a enlevé. Et c'est lui qui a eu l'idée de procéder à des prises d'otages. Retour en arrière en avril 1974. Le Frolina est dans l'impasse. Cette rébellion qui a vu le jour 8 ans plus tôt n'arrive pas à prendre dessus sur l'armée tchadienne, bien aidée par l'armée française qui déploie des hommes pour la soutenir. François Tombalbaye, le président qui règne en autocrate sur le Tchad depuis l'indépendance, est un allié de Paris. C'est un homme ombrageux, violent et de plus en plus paranoïaque. Il souffle sans cesse le chaud et le froid. Mais pour la France, il n'y a pas de plan B. Il n'est donc pas question de le laisser tomber. Le Tchad est un pays stratégique. Forcément, face à l'armada française, ses avions notamment, les rebelles ne font pas le poids. Ils contrôlent certes une partie du désert, mais ils n'ont pas les moyens de s'emparer de tout le pays. Pas assez d'hommes, pas assez d'armes, pas assez d'argent. Pensez donc, ils ne disposent que de quelques 4 quatrées de pétoire, pour la plupart héritées de la Seconde Guerre mondiale. Alors Abré, un tout bout de 38 ans, fonctionnaire érudit qui a étudié en France, à Sciences Po notamment, et qui vient de rejoindre la rébellion après avoir trahi Tombalbaye, propose d'enlever des Européens. C'est Gokouni Wedei, l'un des chefs historiques du Frolina, qui le raconte sur RFI en 2008.
Je me souviens très bien, au cours d'une réunion, Issenabré avait évoqué l'idée, puisque à ce temps, les civils venant des villages proches de Bardaï nous informent qu'un médecin européen sort de temps en temps pour aller soigner les malades dans les villages environnants. Issen donc a profité de cette idée, disant qu'il faut qu'on lui tente un guet-apens pour le capturer, afin de l'échanger contre des armes à feu.
La cible est donc identifiée. Ce sera le docteur Christophe Staven, un Allemand qui dirige un hôpital depuis plusieurs années dans la palmeraie de Bardaï, dans l'extrême nord du Tchad, tout près de la frontière libyenne. La date est fixée également, ce sera le 21 avril. Sauf que voilà, les choses ne se passent pas comme prévu. Ce soir-là, le docteur reçoit deux officiers tchadiens à dîner. Surprise! L'un d'eux sort son arme quand les ravisseurs arrivent. Les rebelles lui tirent dessus. L'autre s'enfuit. Nouvelle rafale. Il tombe également. Dans l'échange de tirs, l'épouse du docteur pousse un cri. Elle est touchée. 3 morts. Abré n'avait pas prévu d'en arriver là. Il n'avait pas prévu non plus que Steven aurait des hôtes. 2 Français qui sont arrivés la veille dans la palmeraie. Françoise Claustre et Marc Combes. Claustre est une archéologue du CNRS, une passionnée qui ne vit que pour son travail et qui arpente le Tchad depuis 10 années. Elle s'intéresse aux tombes pré-islamiques. Et Steven, lui, en signale dans le coin. Et c'est pour ça qu'elle est venue. Son nom de jeune fille, c'est Trennan. Mais il y a quelques mois, elle a épousé Pierre Claustre, un fonctionnaire colonial. Il a passé 20 ans en Centrafrique. Il est au Tchad depuis 2 ans où il dirige la mission pour la réforme de l'administration, la MRA, chargée de réorganiser la fonction publique tchadienne. Une exigence de la France, en échange de son appui militaire. L'autre invité de Staven s'appelle Marc Combes. Lui, c'est un collaborateur de Pierre Claustre, justement. Sur Antenne 2, en septembre 1975, il raconte leur enlèvement.
Entre 9h et 10h, à peu près, il y a eu des coups de feu à l'autre bout de la Palmeraie. Et Mme Claus, qui était dans ma concession, dans la même concession que moi, m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Les rebelles ont investi la cour, tout ça. Ils m'ont fait mettre contre le mur. Ils ont dit que si je cherchais à les tromper, ils me fusilleraient. Et ils se sont présentés que c'est le mouvement révolutionnaire, enfin le Frolina. Et ils m'ont donné l'ordre de sortir la voiture, de sortir le matériel, enfin le poste radio que j'avais chez moi, tout ça. Et on est parti.
Oui, les voilà partis, direction le nord. Dans le premier véhicule, il y a Combes et Claustre. Il y a Abray aussi, petite barbichette, casquette à la Castro. Dans l'autre pick-up, le docteur Steven, meurtri, et le corps de son épouse. Bientôt, elle sera enterrée dans le désert. Le convoi roule toute la nuit jusqu'à Herbie, une autre palmeraie. Une fois arrivé, Abray demande à Combes d'allumer la radio qu'il a emportée avec lui et d'entrer en contact avec Pierre Claustre, à Fayal-Arjo, la principale ville du nord du Tchad. L'Arjo de Bardaï répondait. Bardaï de l'Arjo, je vous reçois. Il est environ 17h, en ce 22 avril. Françoise Claustre apprend la mort de l'Allemande. Mais la communication est mauvaise. Rendez-vous est donc pris pour le lendemain, à 7h15. Et cette fois, Pierre échange quelques mots avec Françoise. Puis Abray lui lit un communiqué dans lequel il revendique l'attaque et adresse, je cite, « ses vifs regrets à la famille Staben ». Il demande à ce que ce texte soit diffusé sur les ondes françaises. Mais à la radio, les rebelles sont présentés comme des brigands. Voilà qui ne va pas leur plaire. Abray est vexé et l'homme est orgueilleux. Il a l'impression qu'on ne le prend pas au sérieux et il n'a pas complètement tort. À Paris, on ne prend pas conscience tout de suite que l'affaire est grave. Il faut dire que la situation est particulière. Non seulement il n'y a plus d'ambassadeur à N'Djamena, l'ancien est parti et le nouveau n'est pas encore arrivé. Mais de surcroît, il n'y a plus de pilote à l'Élysée. Georges Pompidou est mort 3 semaines plus tôt, le 2 avril 1974.
21h58, sur nos téléscripteurs hier soir, la nouvelle est tombée, brutale et sèche. Le président Georges Pompidou est mort. Suivait peu après un bref communiqué signé du professeur Vignaloux. Le président de la République s'est éteint à 21h dans son appartement du quai de Béthune. Il y aura donc des élections présidentielles, soit le dimanche 28 avril, soit le dimanche 5 mai, et le second tour aura lieu 15 jours plus tard. C'est M. Alain Poher, président du Sénat, qui va assurer la régularité de ces élections de l'Élysée, où il fera son second intérim.
Tandis que les otages sont trimballés d'un endroit à l'autre, Abray fait connaître ses premières revendications. 1. La publication dans la presse française d'un manifeste politique. 2. La libération de 32 prisonniers, des camarades détenus dans les geôles tchadiennes. 3. La coquette somme d'1 milliard de francs CFA, soit 20 millions de francs de l'époque, 3 millions d'euros aujourd'hui. Prison dépourvue, les autorités françaises tergiversent. À N'Djamena, les diplomates traitent l'affaire avec mépris. Ils sous-entendent que Françoise Claustre n'avait rien à faire dans cette zone, qu'elle l'a bien cherchée. Elle avait pourtant obtenu toutes les autorisations. Et à Paris, eh bien, on a des choses plus urgentes à régler. Comme gagner l'élection, par exemple. Et puis il y a Tombalbaye. Il faut bien faire avec lui, et surtout, il ne faut pas le froisser. Or, pour l'autocrate, seule compte la manière forte. Avec l'aide des avions français, l'armée tchadienne mène donc une expédition punitive à Bardaï. La palmeraie est incendiée. Plusieurs membres de la famille Abray sont jetés en prison. C'est l'escalade. Pierre Claustre, lui, remue ciel et terre pour préserver le dialogue. Il est prêt à tout pour sauver son épouse. Le journaliste du Figaro, Thierry Desjardins, qui sera le premier à se rendre dans le Tibesti, en parlera comme d'une fabuleuse histoire d'amour. C'était en 2015, dans une fiction de France Inter.
Il faut savoir que M. Claustre était un vieux garçon qui avait fait l'école de la France d'outre-mer, qui était un passionné de l'Afrique, et un peu grincheux, un peu habitué à vivre tout seul dans sa case au bout du monde, et que Madame Claustre était en fait une ethnologue, et tout à fait, vous savez, on a raconté que c'était une espionne, que c'était la maîtresse de je sais plus quel chef d'État africain, pas du tout. Et elle aussi, donc, vieille fille, elle passait 6 mois à creuser des trous à côté du lac Tchad, et puis 6 mois à Paris, alors à étudier ce qu'elle avait pu trouver.
C'est bien beau l'amour, mais ça ne fait pas forcément bon ménage avec les affaires d'État. Et Pierre Claustre va le comprendre très rapidement. Le 18 mai, un peu plus de 3 semaines après la prise d'otage, il se rend à Bardaï pour négocier, accompagné par 2 émissaires, un Allemand et un Français. C'est la première rencontre avec Abret. Et là, surprise, l'émissaire français Robert Puissant demande à disjoindre les cas des Français et de l'Allemand. Claustre n'en croit pas ses oreilles. C'est une grave erreur, pense-t-il. Le lendemain, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Mais ça ne change rien. 3 semaines plus tard, le 11 juin, Stephen est libéré en échange de 4 millions de francs. Les Allemands n'ont pas traîné. En revanche, les 2 Français, eux, restent dans le désert. Oui, la France enchaîne les erreurs. Et elle n'est pas aidée par Thomas Baye, qui multiplie les déclarations incendiaires contre les rebelles. Il a même une idée tordue. Missionner l'un de ses hommes de confiance pour négocier. Un certain Pierre Galopin. Et il insiste. Pour lui, c'est l'homme de la situation. Et le plus incroyable, c'est que la France accepte. Le 15 juin, le commandant Galopin débarque donc à N'Djamena. Puis il file à Bardaï. Oh, il n'est pas dupe. « Je vais y aller, mais je ne reviendrai sans doute jamais », dit-il à ses proches. C'est qu'il est connu comme le loup blanc, là-bas. Pierre Galopin est un militaire français. Il a fait l'Indochine, puis l'Algérie. Pendant 6 ans, jusqu'en 72, il a été détaché auprès du bureau de coordination de l'armée tchadienne. C'est le nom officiel de la police politique du régime, en fait. Le service qui est chargé d'arrêter les opposants et les rebelles, et de les faire parler coûte que coûte, par la torture notamment. Il a donc participé activement et de très près à la lutte contre le Frelinat. En 69, il a même fait office de négociateur avec les rebelles. Enfin, du moins sur le papier, en réalité. Sa mission était tout autre. Il devait semer la discorde au sein de la rébellion et éliminer la famille de Gukuni Wadeï. Or cela, ni Gukuni, ni Abré ne l'ont oublié. Galopin est soupçonné d'être au service de Thombal Baye et de jouer double jeu encore une fois. Le 4 août, il est fait prisonnier. Les négociations sont rompues. Et nous voilà revenus à 3 otages, 3 Français dont un militaire. Pour Abré, c'est du pain béni. Il fait d'ailleurs monter les enchères. Il demande des armes, désormais. Pierre Claustre est désespéré. Cette affaire est bien mal embarquée.
Zena ba usum ki fika shimi mishilisani. Ami ali kulu na ditake yom kala mena maki mata tagli bike o kele ni shifiki mandi kira di kule maula mani maula mani
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Françoise Cloustre, l'otage du désert.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Mars 75. Voilà presque un an que Françoise Cloustre est détenue dans le Tibesti avec Marc Combes et Pierre Galopin. Pour son épouse, en est trop. D'autant que Pierre Cloustre n'a pas chômé ces derniers mois. Il s'est rendu dans le désert via la Libye en Renault 4, puis en avion, après avoir appris à piloter et acheter un petit coucou. Il a revu Abray. Il a vu sa femme aussi, et enfin. Et elle lui a raconté son triste quotidien. Isolée, elle ne fréquente que des femmes et passe ses journées à ne rien faire. Son moral flanche. Il faut agir. Mais les négociations sont au point mort. De retour en France, Cloustre fait le siège de Pierre Ablin, le nouveau ministre de la Coopération. En vain. Tout le monde s'en fout de votre affaire, lui dit-on. La presse également s'en désintéresse. Elle n'en parle plus depuis longtemps. Et puis il arrive enfin à obtenir un rendez-vous à l'Élysée. C'est une chance. Seulement voilà, ça ne se passe pas comme prévu, comme le raconte Thierry Desjardins à nouveau.
Il se présente à l'Élysée le jour fixé et on lui dit, écoutez, non, il y a eu un truc très important. Le président ne peut pas vous recevoir, c'est remis à plus tard. Bon, il rentre chez lui, il allume la radio, je pense même France Inter, et il entend que le président de la République, qui était Giscard d'Estaing, avait passé sa matinée à faire visiter l'Élysée à des bons élèves des écoles communales du 8e arrondissement. Ce qui le rend hystérique, on le comprend. Et donc il décide de mettre la presse dans le coup et il envoie une espèce de circulaire racontant son histoire à 25 journaux à Paris et en France.
Le courrier se conclut de cette manière. Après 11 mois de patience, si je me tourne aujourd'hui vers la presse, c'est que je crois que seuls les journalistes peuvent obliger les pouvoirs publics à faire leur devoir. Ça tombe bien, l'un d'eux saute sur l'occasion, c'est Thierry Desjardins justement. Il monte dans l'avion de Cloustre et se rend dans le Tibesti. Voyage épique dans le ciel algérien, nigérien, tchadien. Accueil mitigé. Les rebelles se demandent si le journaliste n'est pas un espion. Résultat décevant, enfin. Ces reportages dans le Figaro n'ont pas l'effet escompté. Début avril, il y a tout de même un espoir. Puissant se rend une nouvelle fois dans le Tibesti. Il a la rançon avec lui. Et surtout, l'accord de Tombalbaï pour libérer des prisonniers. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que quelques jours plus tôt, le 4 avril, Galopin a été exécuté. Des années plus tard, sur France Inter, le journaliste Christian Millet révèle les détails de sa mise à mort.
Il a été pendu. Ça s'est passé à côté de Zoui, dans le lit d'un petit oued, le 4 avril 1975, à 10h du matin. Il a été amené devant toute une assemblée de rebelles toubous, en présence de Hissène Abré qui présidait la réunion. On a passé une corde à la branche d'un arbre, on la lui a passée ensuite autour du cou, et il a été pendu, purement et simplement. Un combattant, proche d'Hissène Abré d'ailleurs, a demandé « Est-ce qu'on peut pas remettre à plus tard ?» Et Hissène Abré a répondu « Non, maintenant c'est fini. »
Quand il apprend la nouvelle, le 12 avril, Puissant tombe des nues. Et les coups de théâtre s'enchaînent. Le lendemain, Tombalbaï est renversé par un coup d'État. Le général Félix Maloum prend le pouvoir. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les otages. Parce qu'il faut repartir de zéro maintenant. Et Maloum n'est pas plus ouvert au dialogue que Tombalbaï. Un mois plus tard, Marc Combes réussit à s'échapper. Depuis la mort de Galopin, il pensait qu'il serait le prochain. Il a donc tenté le tout pour le tout. Maintenant, c'est sur Françoise Cloustre que l'étau se resserre. Elle est désormais la seule otage. Son époux décide alors lui aussi de tenter le tout pour le tout. Abré veut des armes? Eh bien, il va les lui trouver. Oh, l'idée n'est pas de lui, on lui a soufflé à Paris, évidemment. La France ne peut pas armer l'ennemi d'un ami, mais vous pouvez. C'est alors qu'un intermédiaire le contacte. Le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Il lui donne les noms de deux hommes qui ont sous la main un stock d'armes entreposé au Ghana. On s'en doute, ce sont les services secrets qui sont à la manœuvre. Voici ce qu'on dit Monsieur X sur France Inter en 2003.
Je veux bien, mais pourquoi demander à Cloustre de servir d'intermédiaire?
Vous avez raison, c'est très bizarre. Parce que si on veut vraiment donner des armes à Hissène Abré, on en a les moyens. Les services secrets sont faits pour ça. Ils disposent d'avions discrets et peuvent trouver les armes sans trop de difficultés.
Alors, ça veut dire que le gouvernement veut se défausser de ses responsabilités ?
On peut le penser, comme on peut penser que le marchand d'armes qui a appelé Clostre au téléphone ne l'a sans doute pas fait de sa propre initiative.
C'est à ce moment-là que deux nouveaux acteurs entrent en scène. Le premier est Stéphane Hessel, le diplomate héros de la résistance, est missionné pour enfin aboutir à un accord. Il fait un voyage dans le Tibesti, puis deux, puis trois, et mi-juillet, il croit avoir conclu l'affaire. Parce que Habré accepte ses conditions. La France lui enverra 4 millions et des vivres, tandis que Clostre se chargera, lui, de fournir les armes. Bien, marché conclu, l'échange est prévu pour le 1er août. Mais Stéphane Hessel commet deux erreurs. D'abord, il laisse entendre qu'il est au courant pour la livraison d'armes, et donc, s'il est au courant, c'est que la France l'est aussi. Ensuite, à son retour à N'Djamena, il parle à la presse. Et dans le même temps, Maloum est informé du double jeu des Français. Donc il met son veto. Donc l'accord est caduc. C'est un fiasco. Et c'est là qu'apparaît le deuxième acteur, le journaliste Raymond Depardon. Le 1er août passe et Françoise Clostre est toujours otage. Son mari décide alors d'emmener le reporter de l'agence Gamma dans le désert. On connaît la suite. Depardon filme Françoise et son reportage, diffusé le 10 septembre, fait l'effet d'une bombe. Les journaux font leur gros titre sur l'affaire. Un débat est organisé à l'Assemblée nationale. Il se trouve même quelques chefs d'État africains pour proposer leurs bons offices. Omar Bongo, notamment, le potentat gabonais. Le gouvernement français est donc mis sous pression. Et à partir de là, plus question de se cacher, il faut agir et le faire savoir. Sur les ondes de Radio France Internationale, il s'adresse directement à Hissène Habré.
En réponse à la communication qui leur a été transmise, les autorités françaises se déclarent prêtes à déposer, soit en un lieu à convenir, soit à un compte en banque, une somme de 10 millions de francs, c'est-à-dire 1 milliard d'anciens francs, en échange de la libération de Madame Françoise Clostre. Elle demande à Monsieur Hissène Habré de leur faire connaître sa réponse par radio ou par message acheminé à l'ambassade de France à N'Djamena.
Laborieux. Dans cette affaire, les rebondissements ne manquent pas. Les Français qui se passionnent pour le cas de Françoise Clostre l'ignorent en ce mois de septembre. Mais entre-temps, son époux, Pierre, a été fait prisonnier à son tour. Il y a eu un problème avec les armes. Clostre a affrété un vieux DC-4 avec le soutien des services secrets, certes. La cargaison est bien arrivée, d'accord, une tonne 7 de mortiers, de fusils, de mitraillettes. Mais ce n'est pas du tout à quoi s'attendaient les rebelles. Trop vieilles ces armes, et surtout, il n'y a pas de munitions. À quoi peuvent-elles donc servir ? Habré se sent floué. Il fait arrêter Clostre au moment où Depardon s'apprête à rentrer en France. À nouveau, il dispose donc de deux otages. La tâche se complique. Certes, la France obtient le report de l'ultimatum du 23 septembre, on l'a dit au début. Pour cela, le nouveau négociateur Louis Morel, un préfet qui a eu Habré comme stagiaire quelques années plus tôt, a acheminé la rançon de 4 millions sous les yeux des journalistes. Et il a promis le largage des vivres. Mais Habré demande toujours des armes. Et surtout, Maloum n'en peut plus de ses ingérences. Le 25 septembre, il exige le départ des troupes françaises.
Force nous est de constater que, mettant à profit l'affaire Clostre, le gouvernement français a cru devoir violer la souveraineté nationale en traitant sous protection des mirages directement avec les rebelles et en leur livrant du matériel de guerre. Ce faisant, le gouvernement français a volontairement bafoué l'honneur et la dignité du peuple tchadien. Aussi, le Conseil supérieur militaire et le gouvernement provisoire décident l'évacuation immédiate, et ce, dans un délai d'un mois, des troupes françaises stationnées au Tchad.
Voilà, dehors l'armée française. Et une fois de plus, il faut tout recommencer. Et une fois de plus, l'affaire retombe dans l'oubli. Alors de pardon, il retourne avec la photographe Marie-Laure de Decker. Il réalise un nouveau film. Françoise Claustre apparaît vieille, épuisée. Elle craint même de devenir folle. Personne ne peut comprendre ce que j'éprouve, affirme-t-elle. Mais son témoignage passe inaperçu. Le documentaire est diffusé en Suisse, en Belgique, mais pas en France. Trop militant, apparemment. Résultat, 2 ans après son enlèvement, Françoise Claustre est toujours prisonnière du désert. Et elle n'a même pas le loisir de retrouver son époux. Et puis, leur salut ne viendra pas de la France, ça paraît clair. Leur libération, c'est aux divisions des rebelles qu'ils la devront. En août 76, Abré et Wedey sont en désaccord sur la stratégie à suivre. Le groupe se scinde en deux. Abré part avec ses hommes plus à l'est, et c'est Wedey qui hérite des otages. Plus humain, plus malléable aussi, il les réunit enfin. Ni une ni deux, ils tentent de s'enfuir dans la nuit. En vain, leur geôlier les retrouve après quelques heures d'une liberté toute relative dans ce désert si hostile. C'est alors que Paris demande à Muammar Kadhafi, le guide libyen qui soutient Wedey, de faciliter les discussions. Et là, tout va très vite. Le 30 janvier 77, la nouvelle tombe enfin.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La plus longue prise d'otage du siècle vient de se terminer. Madame Claustre était détenue depuis le 21 avril 1974. Après le temps de l'espoir et de l'attente, c'était donc aujourd'hui celui de la joie.
Je suis profondément heureux de la libération de nos compatriotes détenus au Tibesti après leurs longues, longues et cruelles épreuves.
Les Claustres sont libres, tous les deux. Un dernier périple dans le désert pour rejoindre Tripoli, histoire de remercier Kadhafi, tout de même. Une conférence de presse improvisée. Puis le rapatriement en France et des examens de santé. Le cauchemar de Françoise Claustre prend fin. Après, très exactement, 1012 jours de captivité, soit 3 ans. Et il lui tarde de retrouver l'anonymat d'une vie normale. En tout cas, plus jamais elle ne voudra reparler de cette histoire. Et plus jamais elle ne remettra les pieds en Afrique. Évoquer son travail d'archéologue dans le sud-ouest où elle s'installe, ah ça oui, elle le fait volontiers. Mais revenir sur ce qu'elle appelle elle-même l'affaire, pas question. 4 ans après sa libération, la deux lui consacre un reportage.
L'archéologie lui a rendu le goût de la vie. Son métier, c'est aujourd'hui tout pour elle. Et c'est pourquoi elle a accepté de nous mener jusqu'au lieu de son nouveau travail, une grotte où se sont succédés les hommes préhistoriques. Le plus souvent seule, l'été avec quelques étudiants, elle se penche sur les vestiges d'un passé lointain. Là, Françoise Claustre se sent vraiment sur son terrain, et vous allez l'entendre, elle parle avec chaleur de ce qu'elle découvre.
Et vous voyez qu'à partir d'un fragment, si on arrive à connaître le diamètre, on arrive à reconstituer le vase. Et si à partir de ce fragment, je reconstitue un vase, je crois que j'aurai à peu près ceci.
Vous le voyez, l'otage Claustre est loin aujourd'hui. Reste la chercheuse acharnée, bien décidée à défendre les sciences humaines et à sauvegarder sa vie privée.
En 1987, un certain Hyssen Abré est invité à assister au défilé du 14 juillet aux côtés de François Mitterrand, sur les Champs-Élysées. Le guérillero a réalisé son rêve. Il est devenu chef d'État et il règne en despote sur le Tchad. 19 ans plus tard, en 2006, Abré déchute à son tour. Il vit en exil au Sénégal quand Françoise Claustre, elle, s'éteint dans la ville de Montoriol, au pied des Pyrénées, à l'âge de 69 ans. Elle laisse derrière elle une légende et bien des secrets.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
L'affaire Françoise Claustre. Notre invité aujourd'hui, le journaliste et écrivain Antoine Glaser. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des relations franco-africaines auxquelles vous avez consacré de nombreux livres. On peut citer notamment Africa-France, hein, paru chez Fayard en 2014. Et peut-être faut-il rappeler le contexte de l'époque de notre histoire. Et déjà la mort de Pompidou, c'est une période de transition. Il y a, non pas comme un vide au pouvoir, parce qu'il y a Alain Poher, mais enfin, ça déplace pas les foules non plus, hein, Alain Poher. Est-ce que cela joue sur le fait que Françoise Claustre et Marcon ne sont pas libérés en même temps que le docteur Stallone?
Non, je crois pas. C'était très intéressant à vous écouter. Je suis revisité, évidemment, toute cette histoire. Et je crois qu'on a totalement oublié à quel point, à l'époque, le Tchad, c'était le Tchad utile. Et le Tchad utile, c'était le sud du Tchad. C'était le Tchad avec le coton. La France, finalement, faisait la culture de coton pour nos grandes industries textiles du nord de la France. Et finalement, le nord du Tchad, là où il y avait les rebelles, est devenu important, finalement, pour la France, que le jour où Kadhafi s'est intéressé à la bande d'Aouzou, qui était la bande entre le Tchad et la Libye, où il y a des mines, du diamant. Je me souviens, on fantasmait, c'était vraiment la voie lactée avec des diamants, etc. Ouais. Et c'est le jour où, effectivement, Gougouni Wedei s'est adossé à Kadhafi contre Hissène Habré. C'est à ce moment-là où il y a eu un basculement. Mmh. Et ça a continué. Après, ça a été la guerre avec Hissène Habré, avec l'armée française contre Kadhafi. C'était les Rézous avec les Toyota, avec des mitrailleuses contre le colonel Kadhafi. Mais à l'époque de Françoise Claustre, on disait le Tchad utile. C'était le sud, le nord n'avait aucun intérêt. Et c'est si on se remet, c'est pour ça que je pense que c'était ça. Et c'est très intéressant parce que on voit bien que la France s'appuyait sur des présidents qui étaient issus d'ethnies du sud. Les Sarah Tombalbaï, François Tombalbaï, Félix Maloum. Mmh. Et ensuite, il y a eu un basculement. Ensuite, c'est Gougouni Wedei qui est arrivé au pouvoir en 1981. Ensuite, il s'est fâché, il était toujours fâché avec Hissène Habré. Ils étaient ensemble et c'est Hissène Habré qui a viré Gougouni Wedei. Mais c'était des rebelles, les anciens rebelles du Nord, du Frolina. Et ils sont tellement rebelles que la France, quand elle, par exemple, même pour Barkhane, tout ce que la France a fait dans le massif des Ifoghas au Mali, toutes les guerres de la France en Afrique, elle a utilisé ses anciens rebelles. Mmh. Elle a essayé, puisque la France a été au Tchad. La France est arrivée au Tchad en 1900. Les valeureux capitaines de l'Empire, comme on disait toujours, avaient découpé, malheureusement, l'Afrique de l'Ouest en tranches napolitaines, alors que les populations étaient installées avec des populations et communautés sur une façon horizontale, et est arrivée au bassin du lac Tchad en 1900. Mmh. Et l'armée française se s'est fait virer par Mahamat Déby, qu'en 2025, très récemment. Donc, il faut dire que qu'est-ce que représentait à l'époque le Tchad? C'était vraiment le porte-avions de la France en Afrique.
Donc, gros enjeux dans la France-Afrique.
Très gros enjeux. Après, d'accord, c'est devenu très gros enjeux. Pas à l'époque de Madame Claustre. L'époque de Madame Claustre, c'était vraiment la France. C'était horrible d'ailleurs, parce que la France a imposé l'impôt. L'impôt dans le sud du pays, parce que comme vous n'avez pas d'argent, alliez dans les champs de coton de la France.
Mais alors, plus globalement, est-ce que la présidence de Giscard a marqué une rupture avec le gaullisme dans les relations franco-africaines, ce qu'on appellera la France-Afrique, ou au contraire, est-ce qu'on est dans un continuum?
C'est vrai que Giscard, c'était un grand chasseur devant l'éternel, il adorait aller chasser dans des pays comme le Centrafrique, il avait autorisé le maréchal Bokassa, enfin l'adjudant-chef Bokassa à devenir maréchal. C'est vrai que c'était vraiment un continent qui était vraiment utilisé, c'était une petite France en Afrique, c'était vraiment on avait installé comme ça nos institutions. Mais je veux dire, les Africains, ils ont leur Afrique de jour avec nous et puis leur Afrique de nuit. Et c'est vrai que pour Giscard, je pense qu'on a sous-estimé le rôle de la photographe Marie-Laure de Decker, qui était vraiment très liée à Gougouni Wedei. Vous savez que Gougouni Wedei, avant que cette photographe meure, récemment d'ailleurs, Gougouni Wedei est allé la voir. Elle était dans le Tarn, dans son village dans le Tarn, pour montrer les liens qui restaient de cette affaire Claustre. Et c'est vrai que c'est lui qui a permis la libération de Claustre. Et c'est certain que c'est elle qui a vraiment aidé cette libération. Mais du temps de Giscard, il rêvait, lui, d'une sorte de triangulaire entre l'Europe. Il était très lié au roi du Maroc. Il était lié, d'ailleurs, aussi à l'Iran du Shah.
Oui, du Shah.
À l'époque, en Afrique, il y avait ce qu'on appelait le club du safari. Mais lui était moins France-Afrique que n'a pu l'être le gaullisme triomphant.
D'accord. On faisait aussi copain-copain avec Saddam Hussein à l'époque.
Absolument, hein, absolument.
Parce que vous me parlez de l'Iran, donc le monde arabo-musulman sort de l'Afrique, c'est les mêmes mécanismes. Alors, on dit que c'est passé inaperçu l'histoire de François Claustre. Ben moi, j'ai envie de dire non, parce que je m'en souviens. J'avais 13-14 ans. Et je me souviens de cette image. Ça nous avait tous émus, ça nous avait tous bouleversés.
Oui, tout à fait.
Donc, pardon, il y a pour un petit quelque chose quand
oui,
même.
Oui, mais c'était cette image de cette femme qui paraissait une institutrice. On a l'impression que c'était notre propre institutrice qui était prisonnière
tout
du désert.
Ouais. Et puis on s'imaginait ces journées à ne rien faire, ce risque, la peur de la mort.
Une femme au désert, avec, on voyait à l'époque Hyssen Abré avec sa casquette cubaine, avec ses petites lunettes rectangulaires, très à la mode, sur le boulevard Saint-Michel qu'il avait d'ailleurs fréquenté. Donc c'était quand même une période très particulière, mais il faut vraiment retenir cette façon de la France de traiter l'Afrique, quand il n'y avait pas le problème des minerais, comme maintenant il y a un nouveau Far West minier en Afrique, à l'époque, c'était vraiment le Tchad utile du coton.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Antoine Glaser, on l'a dit dans le récit, 10 ans après l'affaire, Abré a pris le pouvoir, il reçoit tous les honneurs de la France en 87. Il assiste même au défilé du 14 juillet. Entre François Mitterrand et Jacques Chirac, quel est le regard que vous portez sur cet épisode-là?
C'est très intéressant parce qu'il se fera débarquer du pouvoir en 1990. Et c'est encore la France. À l'époque, j'avais fait un bouquin qui s'appelait « Nos très chers espions en Afrique ». Et l'ancien patron du SDEC, Claude Zilberzane, m'avait raconté, il m'avait dit, voilà, j'étais allé au Tchad, il disait avec sa femme, ça m'avait un peu surpris. Et il a dit, j'ai parlé à Hyssen Abré, et quand je suis sorti, j'ai dit à ma femme, celui-là, on va le virer parce qu'il va nous foutre le feu à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Ça m'avait un peu surpris. Et en fait, et alors bon, bien sûr, je me demandais pourquoi, parce qu'Hyssen Abré, dans le dos de la France, en fait, avait compris langue avec les Américains, qui voulait débarquer Kadhafi, déjà à l'époque, qui voulait attaquer la Libye. Et donc, il y avait une cover action, comme ils disent, avec des contrastes, avec des opposants libyens récupérés par Hyssen Abré, qui avaient été retournés contre Kadhafi. À l'époque où François Mitterrand envoyait son ministère des Affaires étrangères, qui était Roland Dumas, parler à Kadhafi. Il savait que la France était en train de renouer avec Kadhafi, en disant à Kadhafi, si vous ne descendez pas en dessous, je ne sais plus, ils appellent ça le sujet parallèle, la ligne de Bandaouzou, à ce moment-là, on peut faire des affaires ensemble. Et c'est très intéressant parce que, et finalement, la France et les services français avec le SDEC et l'actuel DGSE, qui a été chercher un monsieur qui s'appelle Idriss Déby, et qui l'a installé au pouvoir en 1990. Et quand on pense que c'est Emmanuel Macron qui ensuite a adoubé le fils d'Idriss Déby, qui s'appelle Mahamat Déby, vous voyez comment la France a toujours eu quand même la main de la France en Tchad. Il n'y a pas de
plus d'affaires closes. Et aujourd'hui encore, c'est ce que vous dites.
Et aujourd'hui encore, mais bien sûr. Bon. Sauf que, voilà, Mahamat Déby a viré l'armée française. Et maintenant, l'Afrique, c'est open bar. Ça veut dire, vous avez les Émirats Arabes Unis qui soutiennent Mahamat Déby, c'est eux qui financent, et lui finance le Soudan, enfin, les affaires un peu compliquées de la région.
On va y revenir sur la place de la France en Afrique aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous me dites là? Qu'à l'époque, le Tchad et peut-être d'autres pays d'Afrique, c'est ni d'espions, c'est ça?
Oui, surtout le Tchad, quand il suffit de regarder une carte, on voit que c'est vraiment la charnière entre le nord du continent et toute l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est à partir du Tchad où la France a beaucoup utilisé, c'est paradoxal, mais elle a beaucoup utilisé justement parce que c'était les combattants, les rebelles, les anciens rebelles qu'elle a combattus, elle les a utilisés contre les djihadistes dans le massif des Ifoghas au Mali. C'est le petit Mahamat, je dis le petit, mais c'est le fils de Déby qui était avec l'armée française au Mali.
D'accord.
Donc, on voit bien comment la France, quand vous arrivez à N'Djamena, et là, je me souviens que mes confrères, ils ont dit toujours s'il n'y avait pas les rebelles en ville, parce que la garde de Mahamat Déby, les types, ils sont encore comme des rebelles avec des Ray-Ban, des machins, des turbans, ils sont en ville, mais ce sont encore des pratiques de rebelles.
Hyssen Abré se prenait un peu pour le Che Guevara africain, hein ?
Oui, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il a basculé en faveur des Américains, et avec les contrats, et les Américains étaient très emmerdés, donc ils ont autorisé, finalement, ils ont dit ok, ils ont laissé Hyssen Abré prendre un peu d'argent, c'est-à-dire des milliards, et aller jusqu'au Sénégal. Il a été exfiltré au Sénégal et ensuite été condamné au Sénégal pour toutes les exactions. Il y a eu des dizaines de milliers de morts dans les geôles d'Hissène Habré. Et donc, il y avait des Stingers aussi, des missiles et autres que les Américains ont pu récupérer. Et puis les rebelles libyens, ils les ont envoyés ailleurs. Donc il y a eu un deal franco-américain pour exfiltrer Hissène Habré et installer Idriss Déby, qui était avec sa nounou de la DGSE, qui était à Khartoum, et qui est arrivé sans coup férir à N'Djamena, installé par la France.
Et alors, je reviens une dernière fois sur le passé, sur notre histoire. C'est grâce à Kadhafi que cette affaire Claustre trouve son épilogue. Heureux, pour le couple en tout cas. Comment a-t-il fait et pourquoi on ne l'a pas sollicité avant? Puisque manifestement, ça a été relativement, j'ose pas dire facile, mais il l'a fait quoi, Kadhafi. Ah,
c'était l'hubris de la France, ça veut dire à un moment donné, c'était l'orgueil. Vous savez, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Arrogant comme un Français en Afrique. Donc je veux dire.
On peut enlever en Afrique d'ailleurs.
Il n'était pas question de demander quoi que ce soit à Kadhafi, il pensait que c'était un uluberlu et autres, alors qu'il tenait son pays.
Oui. Et puis c'est quand même lui qui arrive à dénouer l'affaire.
Absolument.
Bon. Alors, on va parler de la France et de l'Afrique. Ce concept de France-Afrique, alors vous me disiez aujourd'hui qu'aujourd'hui encore, la France tire certaines ficelles
de moins en moins.
Ce côté France-Afrique, il s'arrête quand? Avec quel président finalement?
Pour moi, je pense que il y a eu un anachronisme historique. Ça veut dire des indépendances de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89-90. La France, sur toute une partie de ces 13 pays d'Afrique, ce qu'on appelle le précaré français, était toujours, se croyait chez elle en Afrique. Et en 90, au moment de la chute du mur de Berlin et à la fin de finalement la lutte contre l'Union soviétique, c'était une grande politique pour la France pendant 30 ans. Et la France n'a pas compris qu'elle pouvait pas rester comme ça sur le continent. Comme si elle était chez elle. Ouais. Et elle s'est trouvée hors sol. C'est pour ça que l'armée française s'est fait virer du Sahel, parce qu'elle a continué à faire comme si elle était chez elle, alors que ses propres partenaires européens faisaient le business en Afrique pendant qu'elle elle faisait le gendarme. Elle s'est fait virer du continent. Et c'est vrai qu'elle a perdu. Ça allait bien quand c'était une grande politique avec un système intégré, ce qu'on appelait la France-Afrique, qui était institutionnelle, militaire et tout. La France, elle faisait tout à la place des Africains, avec des dizaines de milliers de coopérants. Ouais. C'était un anachronisme historique. Il fallait que ça cesse un jour ou l'autre.
Et puis maintenant, il y a une concurrence étrangère sur la zone d'influence française et anglophone aussi peut-être, c'est la Chine.
Alors, il y a la Chine, mais vraiment, l'Afrique, c'est vraiment open bar et c'est vraiment le nouveau Far West africain. Et par exemple, quelqu'un comme Donald Trump qui disait toujours, au premier mandat, il disait que c'était des pays de merde. Et maintenant, lui aussi s'intéresse à toutes les mines qui en Afrique, en République démocratique du Congo, toutes les mines contre les Chinois. L'obsession des Américains, ce sont les Chinois en Afrique. La France, c'est plutôt la Russie. Mais pour les Américains, ce sont les Chinois, parce que ce sont les mines, c'est les intérêts miniers.
Bien, merci infiniment Antoine Glaser. Ce sera le dernier mot de notre entrevue. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Françoise Claustre, l'otage du désert. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorémini.